Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
C'est encore une joie de partager la parole de Dieu et puis d'avoir un aîné, être béni par un aîné pour pouvoir continuer. Surtout que en dessous il y a encore, comment dire ça, il y a encore le pull de l'onction. Il est toujours là. Bon, voyez-vous, pour pouvoir nous appeler, pour pouvoir donner, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à regarder. Il faut qu'on se retourne, on se tourne vers les fondements. La fondation de la foi chrétienne. Il faut qu'on regarde vers la base pour pouvoir donner, pour pouvoir nous donner, pour pouvoir nous atteler, pour pouvoir aller, pour pouvoir distribuer l'amour. Si la base n'est pas solide, nous ne pouvons pas faire quelque chose. Une maison bâtie sans fondement solide ne résiste pas. Un chrétien qui n'a pas un fondement solide ne peut pas résister, ne peut pas donner, ne peut pas avancer, ne peut pas se lever, ne peut pas s'atteler et ne répond pas aux besoins du Seigneur, ne répond pas présent au rendez-vous du Seigneur. Il faut regarder les bases. Il faut regarder les fondements. C'est pourquoi ce matin, je vous propose comme thème les fondements de la vie chrétienne. Sur quoi est bâtie ta vie? Quelle est la base de ta vie chrétienne? Quelle est la référence de ta vie chrétienne? À quoi tu te réfères? Sur quoi as-tu arrêté? Sur quoi te sens-tu en sécurité? À quoi tu t'adosses? Quelle est la base de la vie chrétienne? Moi, je pense, pour vérifier ça, l'église primitive est la bonne référence pour nous donner les indications. Je veux dire que d'une certaine manière, et même de la seule manière, il nous est impossible d'atteindre l'objectif du Seigneur sans les indications de l'église primitive, sans le retour à l'image, à l'exemple de l'église primitive. Ce que Jésus n'a pas dit, ce que Jésus n'a pas fait, ce que les apôtres n'ont pas dit, n'ont pas écrit. Si quelqu'un nous dit, il est menteur. C'est faux. La seule référence que nous avons, c'est la base du Seigneur et c'est l'église primitive. C'est seulement mon avis. Je ne suis ni prophète, ni docteur, je suis un petit pasteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Elle est puissante et c'est notre référence à nous tous. Alors je vous propose de lire dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, à compter des versets 41 jusqu'à 47. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 47. Je commence à lire à partir de ma version, Louis Segond. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmentait. Le nombre des disciples augmenta d'environ 3 000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, en tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et si je propose quelques points, pour moi, ces points composent la fondation que nous devons, sur laquelle nous devons baser notre foi. Si jamais ce n'est pas ça, il nous faut revenir à ça. C'est le discours de Pierre au jour de la Pentecôte où il y a eu des conversions. Mais déjà, nous voyons au verset 40, à la fin du verset, Pierre dit « Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. » Je crois qu'il se rappelle de cette génération qui est vraiment perverse et qui allait jusqu'à crucifier le Fils de Dieu. C'était une génération vraiment perverse et il demandait aux gens de se sauver de cette génération, de sortir de cette génération. Frères et sœurs, à nous aujourd'hui de marquer notre génération par la vie du Seigneur Jésus-Christ, de marquer notre temps, de marquer les générations par l'exemple de Jésus-Christ, de marquer le temps, parce que dans toutes les générations, il y a des gens qui rejettent le message de Christ, qui rejettent la personne de Jésus-Christ, toutes les générations. Mais à nous de ramener, de nous départir de cette génération perverse et de marquer l'exemple de Christ. Tu vois qu'il dit au verset 36 que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Que tous les âges le sachent, que toutes les générations le sachent, que Dieu a fait Seigneur et Christ, Jésus qui a été crucifié. Comment peuvent-ils le savoir si nous ne marquons pas de notre vie ces générations-là? Donc, premièrement, il faut qu'on marque nos générations. Le verset 41, il dit, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Si j'avais un bic, j'aurais souligné, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Ici, nous voyons, il ne suffit pas d'accepter la parole du Seigneur. C'est un peu même trop facile. Oui, je crois à la Bible et la vérité. Le message à l'église, c'est bon. Oui, c'était une bonne prédication. Oui, l'orateur était excellent. Oui, ça m'a touché. Et puis après quoi? Rien du tout. Il y a ici un engagement. Ils ont accepté la parole du Seigneur. Ils se sont engagés. Le baptême est un engagement. Mais pas seulement plonger dans l'eau. Mais il faut que nous acceptions le Seigneur. C'est bon d'accepter la parole du Seigneur. Mais il faut que nous allons au-delà de l'acceptation, que nous soyons engagés dans cette parole, que nous soyons engagés à propager cette parole, que nous soyons engagés à appliquer cette parole, que nous soyons confondus à cette parole, que dans cette parole, l'on voit la puissance de Dieu en nous. Il ne suffit pas seulement d'accepter la parole du Seigneur, mais il faut s'engager. Pierre et les autres, ils ont accepté Jésus, mais ils se sont vraiment engagés. D'autres ont été tués à l'épée, Jacques. D'autres ont été lapidés, Étienne. Parce que ce n'est pas seulement la parole qu'ils ont acceptée, mais ils se sont engagés à appliquer cette parole et ils ont rencontré en face d'eux une opposition. Ils ont résisté et ils ont été victorieux dans la mort. C'est de tel engagement que la France a besoin, que l'Afrique a besoin, que le monde a besoin. C'est un tel engagement que Jésus-Christ a besoin. Et c'est l'engagement qui marquait l'Église primitive qu'il faut maintenant. Parce qu'il arrive très bientôt Jésus-Christ. Il dit, attelez-vous. Il y a tellement, il y a une puissance de l'onction de Dieu dans cette salle depuis le matin. Remarquez les chansons, les prophéties et tout va en concordance. Donc, ne soyez pas des auditeurs oubliés depuis ce matin. Tout ce qui se faisait ici, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3 000 âmes. voyez, moi j'ai l'impression que, du coup, le discours de Pierre a réuni au plus de disciples que Jésus-Christ. On a l'impression, sur le coup, il y a eu 3000 personnes. Même le Seigneur Jésus-Christ, sur le coup, n'avait pas eu 3000 personnes. Mais il avait déjà dit, vous ferez plus que moi. Il avait dit, c'est à vous et moi de faire plus que le Seigneur. Il faut pousser. Il faut pousser en avant. Il faut aller de l'avant. Il faut défier sa propre foi. Il faut exercer sa foi tous les jours. Il faut y mettre de l'audace. C'est ce qui est arrivé. C'est le temps, le fondement de la vie chrétienne. C'est l'audace, l'église primitive. C'était l'audace. Est-ce que nous pouvons pratiquer ça? C'est le temps de ces choses. C'est le temps de la folie divine, de la folie de Dieu qui est arrivée. Il faut être des fous de Dieu pour conquérir les cœurs. Les autres n'étaient pas des fous de Dieu. Ils ont conquis des territoires au nom d'une certaine croix. Ils ont fait des croisades. Mais Jésus-Christ, il avait conquis des cœurs. Et c'est le moment qui est arrivé. Le nombre doit s'augmenter. C'est le signe. Ensuite, le verset 42 nous dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. J'aurais souligné ça aussi. Il persévérait pas dans le péché. Il persévérait pas dans l'incrédulité. Il persévérait pas dans leur ego, dans leur petit moi. Mais il persévérait. Il persévérait d'abord, c'est tout, je sais pas, c'est tout. C'est-à-dire, il ne laissait pas tomber. Il résistait. C'est trop tôt pour laisser tomber. C'est trop tôt pour abandonner la foi. C'est trop tôt pour se décourager. Il faut remettre ça toujours. Le découragement, l'abandon de la foi chrétienne et le refroidissement, c'est des choses que l'Église primitive n'a pas connues. Parce qu'un chrétien ne doit pas se décourager, ne doit pas se refroidir. Il doit toujours rallumer la flamme de feu du Saint-Esprit en lui. Persévérer, résister. Tenez bon. Les jours meilleurs arrivent dans ta vie si maintenant tu vis des problèmes. Mais en persévérant, ça va aller. Mais il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est ça. Il faut qu'on persévère uniquement dans l'enseignement des apôtres. Le fondement de notre foi doit être l'enseignement des apôtres. Les apôtres ont retransmis l'enseignement de leur maître. Il faut que nous persévérons dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez, les chrétiens n'aiment pas l'enseignement. Ils n'aiment pas se faire enseigner. Ils sont rares aux études bibliques. C'est dommage. Mais ça n'a rien à voir avec l'église primitive, ni le désir du Seigneur. C'est de la paresse spirituelle. C'est du laisser aller. C'est inconsidéré, ça n'a pas de sens. Parce qu'après tout, tu ne peux pas vivre sans la connaissance de cette parole. Mais pourquoi est-ce que tu t'attelles pas à cette parole, à la parole du Seigneur, à l'enseignement des apôtres? Il y avait l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament, c'était ce qu'ils enseignaient en ce moment-là. Alors, ceux qui avaient accepté le Seigneur, qui s'étaient engagés et qui vivaient la foi, persévéraient dans cet enseignement que nous avons aujourd'hui, écrit noir et blanc, et que nous laissons souvent dans les oubliettes, que nous prenons dimanche matin, et pousser la Bible un peu, et puis venir à l'église. Alors, c'est pas ça la chose. C'est pas le fondement de la vie chrétienne. L'église primitive, c'était pas ça. C'était pas ça. Il y a quelque chose de plus pur. Alors, il dit dans le verset 43, toujours dans le verset 42, j'aurais souligné, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, dans les prières. À force de persévérer dans l'enseignement des apôtres, on est obligé de vivre en communion. Parce que si tu connais l'enseignement des apôtres, c'est pas dissolu, c'est pas séparé, c'est uni. Jésus, il avait des paroles tellement fortes. Moi, si j'avais la place de Jésus, si j'avais tout ça, j'aurais dit, dans cette prière sacerdotale, Je redis, Père, fais que eux, ils soient un peu en bas de moi, en dessous de moi, que moi je sois en haut. Mais vous savez ce que Jésus a dit? Là où toi et moi nous sommes, qu'ils soient eux aussi là. C'est un signe d'unité, de communion. Quand on persévère dans l'enseignement de l'apôtre, des apôtres, on est obligé de fraterniser, de s'entendre, de se comprendre, de se soutenir, de vivre le malheur de l'autre, le bonheur de l'autre. Au fait, un chrétien n'a pas de malheur. Il est écrit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah oui, ce qui pour nous est choquant. Voilà, il y a un frère qui a été accidenté. Il y a quelqu'un d'autre qui est malade. On prie. Mais Dieu, pendant ce temps qu'il est seul, dans le lit d'hôpital, Dieu commencera à lui parler. Dieu aura, il y aura une intimité avec lui. Et le Seigneur écoutera nos prières. Et il va se relever. Il va dire, pendant que j'étais dans cette salle d'hôpital, où, hein, le Seigneur m'a parlé. C'était peut-être pour rapprocher son fils vers lui un moment. Parce qu'il y a trop de distractions, il y a trop de bruit. Là, je peux lui parler. Savez-vous, quand les chrétiens sont d'un même cœur, d'un même esprit, d'une même pensée, il y a des miracles qui se produisent. Moi, je veux vous donner une illustration. Une fois, dans une ville en Côte d'Ivoire, on m'avait invité à une évangélisation. Le pasteur m'a dit, « Ok, dans cette date, tu viens. » Et nous, à l'église, on s'est mis à prier. 6 mois avant la date, nous avions prié. À l'heure où je suis, il y a culte sûrement, ça commence à 9h jusqu'à midi. Mais juste après, les gens vont se mettre à prier jusqu'à ce qu'ils me voient. On a préparé dans la prière cette rencontre. Arrivé dans la ville, le pasteur me dit, « Non, c'est grave parce que les musulmans ici, ils sont vraiment trop actifs. Et ils sont vachement riches. Ils sont très costauds, ils sont forts. Alors, au lieu d'avoir cette évangélisation en public, nous allons la ramener dans le sein de l'église. Là, comme ça, ça va se passer entre nous. On va évangéliser les chrétiens, non? » Vous voyez, il y avait la peur qui était entrée dans le cœur du pasteur. Et moi, il était plus âgé que moi. Donc, nous, on n'a pas l'habitude de résister aux gens plus âgés. C'est comme ça l'éducation en Afrique. Alors, je n'ai rien dit. Je dis, d'accord, pasteur. On a ramené l'évangélisation à l'église. Et c'était un après-midi. Il y avait 300 personnes environ. Tous étaient des chrétiens. Et mais parmi ces 300 personnes, Dieu est tellement bon et fort. Il y avait une personne qui était musulmane. Une seule. Et elle était assise là. Alors, quand j'ai donné mon témoignage, j'ai dit que je n'ai pas eu le salut dans l'islam, que c'est en Jésus seulement. Alors, ce jeune homme s'est levé de là, il est passé devant le pasteur, et il a dit au pasteur une parole que je n'ai pas entendue. Et le pasteur vient me dire, connais, prépare-toi, hein, parce que le jeune que tu as vu là, il s'en va appeler son imam. Alors, moi j'étais déjà prêt, puisque je prêchais. Alors, au lieu qu'il vienne tout avec son imam, il est venu avec 40 musulmans, plus l'imam et lui. Donc il y avait 42 personnes. Alors, quand je les ai vus venir, à moi de parler au pasteur, ce que tu ne voulais pas dehors se fera dans l'église. Et puis ils sont venus tout confiants, les mains dans les poches, traînant les pas dans l'église, sans aucun respect, marchant et marchant dans le chewing-gum. Alors ils sont venus, le pasteur est allé dans la cour, il a pris les fauteuils de son salon, il a bien placé, et ils se sont assis sur les bancs, les chrétiens ont cédé de la place, ils étaient assis, ils faisaient du bruit, pendant que je parlais par-dessus le marché. Quand je parle, ils disent Takbir, Allah Akbar, tel que nous disons Alléluia, Amen, ils disent Takbir, Allah Akbar, c'est-à-dire les grands, Allah est grand. Vous voyez, ils ont transversé, amené leur Dieu dans notre église, chez notre Dieu, sans respect. Mais Moussa qui parlait, humainement parlant, j'avais envie de gifler l'entendre. Tant qu'il s'agissait de moi, quoi. Mais par l'esprit, j'ai continué. Mais il s'est passé une révolte à l'intérieur de moi. Je disais à mon Dieu, ce jour-là, il faut faire un miracle pour que leurs yeux voient la différence entre leur Dieu et notre Dieu. Quand j'ai fini de parler, j'ai dit, bon, avant de donner la parole à l'imam, je veux qu'on prie d'abord pour les malades. Et ce jour-là, j'ai dit devant le micro et devant ces musulmans-là, on ne veut pas des gens qui ont simplement mal à la tête, parce que quand on va prier, quand ils seront guéris, on n'aura pas la preuve visible qu'ils sont guéris. On veut des gens qui sont véritablement malades, visiblement malades, et que le Seigneur les touche, que tout le monde sache que notre Seigneur Jésus est Dieu. C'est ce qu'ils ne veulent pas entendre. Mais moi, j'ai dit, alors je suis allé me mettre à genoux, là. J'étais en train de prier, et le pasteur vient me taper dans le dos. Il me dit, Koné. J'ai dit, oui, pasteur, tu as dit que tu voulais malade, non? J'ai dit, mais... Il dit, voilà, regarde. Là, j'ai eu chaud. Il y avait un monsieur qui était âgé de presque 80 années et il était totalement aveugle. Il ne voyait pas du tout clair et c'est sa fille qui le conduisait. Quand j'ai vu l'aveugle, ah, Seigneur, comment se passe-t-il? Ça, c'est chaud ce matin-là. Je me suis dit à l'intérieur, mais il était là, hein? Il était là et tout le monde était là. Et eux aussi, ils voyaient ça. Ils continuaient dans leur cri de guerre. Alors moi, je dis à toute l'église, Bartimée, le fils de Timée, il a vu clair quand Jésus l'a guéri. Et totalement, il était guéri. C'est écrit dans la parole de Dieu. Celui-ci, il est aussi aveugle. Mais Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui. Il peut faire les mêmes choses. Donc je dis à toute l'église, élevons nos voix vers Dieu, ensemble, pour que le miracle se fasse. Ils ont commencé à rire, les musulmans. Mais chaque chrétien se sentait défié. Il y avait des cris vers le ciel. Il y avait des parlers en langue. Il y avait des... Les gens, les chrétiens étaient motivés. Le défi était pour chacun d'entre nous. Mais alors, ce n'est pas de voix différente. On a crié ensemble vers Dieu. Des mêmes cœurs, d'une même pensée. Et à un moment, je viens, j'ai tous ces yeux, je dis au nom de Jésus, qu'ils voient. Et je leur ai fait signe d'arrêter. Je le demande, il dit non. Ils voient du blanc parce que j'étais habillé de tout blanc. C'était trop flou. J'ai dit aux frères, on continue. Ils ont repris de plus belle, à l'unisson. Et à un moment, je m'approche, je lui impose les mains au nom de Jésus-Christ. Que la cécité s'en aille, qu'il voie clair. Selon l'Écriture, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. C'est écrit et ça demeure. Et eux, je n'ai pas fait de signe. C'est-à-dire, chaque chrétien a senti que c'était le moment, c'était fini. Ils ont arrêté eux-mêmes. Et l'homme, je n'ai pas besoin de lui poser des questions. Il m'a dit, je vois très bien clair et je te vois, tu es très noir. Parce qu'en fait, je suis l'un des plus foncés. Il y a des gens plus clairs. Alors c'est la première chose qu'il a dit. Et il a commencé à courir dans l'église, à sauter. Cet homme qui était aveugle depuis 10 ans, il voyait clair. Mais une seule chose s'est produite là. D'un même cœur, d'une même pensée, les chrétiens étaient, et le miracle s'est produit. Ça, c'est le fondement de la foi chrétienne. Ça, c'est l'exemple de l'église primitive, d'un même cœur, d'une même pensée. Ils priaient ensemble, et les miracles se produisaient. Vous savez ce qui s'est passé? Après ça, j'étais tellement joyeux, je sautais, j'ai demandé encore s'il y a d'autres malades, amenez-les. La foi est revenue. Merde, je... Vous allez, ça a été une succession de miracles. Au point que, il y avait même une femme qui avait un goitre qu'on a amené. Et quand j'ai prié, elle a vomi. Et le goitre est parti. Les musulmans étaient là, assis. Après ça, j'ai donné la parole à l'imam. J'ai dit, moi j'ai dit, dans le Coran, on ne peut pas être sauvé. Si tu as le contrat à prouver, vas-y. Elle a pris le micro. Elle a dit qu'il n'était pas prêt à affronter, à relever ce défi, que prochainement il va venir. Alors, celui qui allait le chercher, il a fait le pas de là où il était dans le camp des musulmans dans l'église, il allait voir le pasteur pour dire, à partir d'aujourd'hui, je me convertis à Jésus-Christ. Et il y a 11 personnes, des 42 qui sont venues, qui sont allées voir le pasteur, là même, et se sont converties à Christ. Mais c'est le fruit de l'union. Et il dit au verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Aujourd'hui, le Seigneur ne te demande pas de livrer ton compte en banque à quelqu'un d'autre. Non. Mais il demande plus que ça. Toi-même entièrement, que tu te donnes à lui. Que ce que tu possèdes alors soit sous la coupe du Seigneur. Que tes biens lui appartiennent. Mais sachons, frères et sœurs, que rien ne nous appartient sur cette terre, au fait. Si vous lisez bien vos Bibles, vous verrez que le ciel appartient à Dieu, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, et tout lui appartient. Qu'est-ce qui nous appartient? Même mon portable ne m'appartient pas, c'est pour Dieu. Les enfants que nous avons ne sont pas à nous, ils sont à Dieu. Les voitures que nous avons ne sont pas à nous, elles sont à Dieu. Le compte bancaire n'est pas à nous, il est pour Dieu. Et nous sommes que des gérants. Voilà la chose. Est-ce que vous ne réalisez pas? Qu'est-ce qu'il a dit l'homme de Dieu? Donnez! Oh, mais donnez quoi? Ce que vous gérez. Vous n'avez rien, nous n'avons rien. Nous sommes venus nus et nous partons nus. Pourquoi devons-nous nous en priver de quelque chose? C'est pourquoi les apôtres l'ont tellement compris qu'ils partageaient et que là, il y avait des miracles qui se produisaient encore plus. Encore plus. Une grande crainte de Dieu s'emparait. Ah oui, écoutez, il y a une chose. Dieu, il est véritablement amour. Mais son amour est tellement profond que c'est aussi une correction pour nous. Parce qu'il nous aime, il nous corrige. Il nous corrige. L'Épître aux Hébreux nous le déclare. Si nous n'avons pas part à la correction du Seigneur, c'est que nous ne sommes pas ses enfants. Si nous sommes ses enfants, nous devons être corrigés par son amour. Des fois, tu sers trop ton budget. Il sait comment faire pour te troubler là-dedans, pour que tu te tournes vers Dieu. Une catastrophe. La voiture explose. Et puis cette belle voiture-là, tu es obligé de dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon fils, tu aimes la voiture plus que moi. Alors je te l'enlève. Des choses simples. C'est vrai, mes frères. Revenons au fondement de l'église primitive. Sinon, on ne pourra pas relever le défi. Encore moins le défi de l'islam. En revenant au fondement, nous avons le pardon à l'intérieur de nous. Nous distribuons le pardon. Nous donnons le pardon. Nous avons le sourire. Nous avons la compréhension. En même temps, nous avons la santé. Celui qui pardonne, il est joyeux, il est heureux, il a moins les nerfs qui se tirent, il est moins coléreux et il se porte mieux. Si tu veux, ne pardonne pas, tu seras comme ça. Ah oui, mais c'est vrai, et tu vas être malade. Mais pour pardonner, le pardon, si on analyse, c'est-à-dire que c'est au moins une offense considérée comme non advenue. Je suis offensé. Mais je considère que je n'ai jamais été offensé. Dans l'Épître aux Hébreux, le Seigneur déclare qu'il pardonne et il oublie. Dieu n'oublie pas, mais la seule chose qu'il oublie, c'est le péché confessé. Il l'oublie à jamais. Mais toi, quand tu dis, frère, je t'ai pardonné, après 2 semaines, tu racontes à ta femme, mais ce frère-là, il m'a fait quelque chose dans l'église. Incroyable, incroyable. J'étais blessé dans mon amour, mais je lui ai dit que je lui ai pardonné. Mais au moment où tu es en train de raconter, tu trembles de colère. Oh, mais d'où viens-tu? Il y a quelque chose dans le fondement qui n'est pas parfait. Il y a quelque chose à revoir. Retourne à la base et regarde. Retourne à la base et regarde. Apprends à pardonner. Le dernier verset, et puis je vais m'arrêter. Verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple.
Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le nombre, ça compte. Hein. C'est la qualité qui est importante. Mais nous pouvons avoir la qualité et le nombre. Nous pouvons. Si nous devons choisir, choisissons les deux. Et puis c'est le Seigneur qui va s'occuper du reste. Nous avons les capacités. Chacun de nous, par sa vie, par la crainte, le développement de l'Évangile en lui, attira. Mais écoutez, il y a une très belle jeune fille de mon église. Elle, il y a quelque chose qui s'est passé. Pendant que, chaque fois quand elle passe, elle va à l'église, il y a un monsieur là-bas qui la regarde et qui fait une déclaration d'amour plus tard. Il dit, oui, c'est très courageux de venir devant une femme et dire, je t'aime, je veux t'épouser. C'est un courage. Mais la jeune fille savait qu'il n'était pas chrétien. Bon, d'accord, on se donne rendez-vous quelque part. Oh non, moi je vous donne rendez-vous à l'église. À l'église. Moi je vais à l'hôtel là. À l'église, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Comme je vous aime. Et puis, elle l'amène à ce rendez-vous à l'église. C'est le bon lieu pour les rendez-vous. Hein. Alors, le message qui est prêché est la vie de ce monsieur. Mais et comment? Tu as dit à ton pasteur qui j'étais? Tu lui as raconté ma vie? Non. S'il vous plaît. Jésus connaît votre vie. Et Jésus parle à travers lui. Comment Jésus peut parler à travers lui? Mais ainsi, il est tombé face à terre. Et il s'est donné au Seigneur. Nos vies doivent attirer les autres pour faire le nombre dans l'église. C'est ça aussi le fondement. Combien de personnes as-tu apporté à l'église par ton témoignage personnel, par l'onction qui dégage de toi, par ta vie familiale, par ta vie professionnelle, par ta vie de chaque jour? Au fait, tous les chrétiens sont des serviteurs de Dieu. Parce qu'on ne veut pas travailler pour voler. Si nous vivons notre vie de foyer, normalement, nous servons Dieu. Tu es comptable, tu gères une bonne comptabilité, tu sers Dieu. Alors nous servons Dieu à tous les niveaux. Et c'est cela qui amène à l'église, à grandir le nombre. Alors pour les musulmans, c'est ça aussi. Il faut leur pardonner et puis il faut aller. Je vais vous raconter une histoire pour terminer. Il y avait un médecin chez nous. Il est chrétien. Il a une belle famille. Il a ses 5 enfants, je crois bien. Et puis il a une bonne femme. C'est un couple merveilleux. Il n'a pas plusieurs femmes, il a une seule à la fois. C'est un couple merveilleux. Et le soir, ils partagent bien, ils mangent ensemble, ils prient et tout. Mais un soir, pendant qu'ils étaient à table, il y a quelqu'un venu casser la porte. Il y a un groupe de bandits qui sont entrés, armés, comme il y en a tellement actuellement dans le pays, les armes sont partout. Ils sont rentrés et ils ont mené la famille dans le salon. Ils ont braqué l'homme, on le menaçait avec les... Et puis, ce qu'ils ont fait là, devant ce monsieur, devant sa femme, il y a un d'entre eux qui a violé la mère, son épouse. Et puis après ce qu'ils ont fait, ils ont tué tout le monde. Tous les enfants et la femme, ils ont laissé l'homme seul. Comment pouvait-il vivre? C'est un médecin, il est chrétien, il continue d'exercer son travail. Mais il ne parle jamais à quelqu'un. Il ne peut plus parler. Il y a quelque chose qui est mort à l'intérieur de lui. Il travaille bien, mais il ne communique pas. Juste donne-moi ça, bonjour, bonsoir, et il est dedans. Attachez vos ceintures parce que l'histoire continue. Un jour, on l'appelle d'urgence, parce qu'il est chirurgien. Vient à l'hôpital, il y a eu un accident, il y a un homme qui est dans un état très grave, il doit être opéré. On l'a déjà mené au bloc, et c'est toi qui dois l'opérer, viens d'urgence. Et quand il est arrivé au bloc, ce monsieur qui était là, il a reconnu l'assassin, le violeur de sa femme. Alors, s'il acceptait de l'opérer, l'homme serait sauvé. S'il refusait, l'homme mourrait. Donc, on attendait sa décision. Lui n'a pas dit à son entourage qu'il connaît cet homme-là. Il le reconnaît. Mais si je vous pose la question, si c'était vous, qu'est-ce que vous auriez fait? L'auriez-vous opéré ou bien vous l'avez laissé mourir? Oh, bon Dieu. La réponse, c'est votre cœur qui connaît. Mais cet homme s'est retiré un moment. Il a parlé avec Dieu. Et il est venu. Il a décidé d'opérer l'assassin de sa famille. Il l'a opéré. l'opération était réussie. Mais dès qu'il a fini de l'opérer, lui aussi, il a eu une joie à l'intérieur et il était délivré de ce mutisme, de cet isolement. Il a commencé à communiquer. Et l'homme était sauvé. Évidemment, quand l'homme pouvait parler, il a accepté Jésus, l'assassin. Mais lui aussi était sauvé. Le pardon est important. Il y a des maladies que vous traînez parce que vous ne pardonnez pas. L'église primitive s'apparentait. Donnez. La base de la foi chrétienne, c'est le pardon. Le fondement, c'est le pardon. Comme a dit le serviteur de Dieu. Le musulman, pardonnez-leur tout ce qu'ils vous font. Tout ce que vous entendez de mauvais venant d'un islam intégriste ou pacifique, pardonnez. Et montrez la preuve de votre pardon. Le Seigneur fera le reste. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Et notre Seigneur Dieu, je veux te rendre toute la gloire au nom de Jésus-Christ. L'homme de Dieu a déjà prié pour ceux qui n'arrivent pas à donner et pardonner. Seigneur, ce matin, je prie pour ceux qui sont sur des fondements légers, pour ceux qui ont bâti leur foi chrétienne sur du sable, pour ceux qui n'ont aucune référence biblique par rapport à leur foi, par rapport à la fondation de leur foi. Pour ceux, je vous demanderai même de vous tenir debout, s'il vous plaît. Parce que l'Esprit de Dieu va faire une opération sans émotion. Il va toucher ton cœur. Tu peux ne pas bouger. Mais Dieu va te faire déménager de cette fondation légère et de t'établir sur une fondation à partir de l'Église primitive, sur le roc Jésus-Christ. Cela va arriver simplement parce que c'est le Saint-Esprit qui travaille ici. Ce n'est pas un homme qui travaille. Nous sommes tous des petits serviteurs, mais l'Esprit de Dieu est grand et puissant. Et c'est là dans ce lieu. Seigneur, notre roi, nous t'honorons, notre Dieu. Nous te manifestons notre reconnaissance pour avoir amené Jésus mourir sur la croix. Mais nous sommes souvent sur des fondements légers, des fondements basés sur l'intellect, sur l'ego, sur notre compréhension, sur notre entendement, sur notre manière de calculer. Des fondements basés vraiment, Seigneur, sur les circonstances et les événements qui nous arrangent, Seigneur. Mais cela n'est pas forcément scripturaire. Le roc, c'est ce que nous demandons. Père, ce matin, parmi nous, il y a certainement plusieurs personnes qui doivent revoir la base de leur foi chrétienne parce qu'il a été dit d'abord, attelez-vous, le temps est proche. Elle a été dit ensuite, pardonnez.